Bienvenue à tous. J'aimerais parler sur les conséquences du baptême dans le Saint-Esprit, dans Actes chapitre 3, verset 1. Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière. C'était la neuvième heure. Il y avait un homme boiteux de naissance qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple, appelé Label, pour qu'il demande l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Cet homme, voyant Pierre et Jean qui allaient entrer, leur demanda l'aumône. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit « Regarde-nous ». Et il les regardait attentivement, s'attendant à recevoir d'eux quelque chose. Alors Pierre lui dit « Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. » Et le prenant par la main droite, il le fit lever. Au même instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. D'un saut, il fut debout et il se mit à marcher. Il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant et louant Dieu. Tout le monde le vit marchant et louant Dieu. Il reconnaissait que c'était celui qui était assis à la belle porte du temple pour demander l'aumône. Et ils furent remplis d'étonnement et de surprise au sujet de ce qui lui était arrivé. Comme ils ne quittaient pas Pierre et Jean, tout le peuple étonné accourut vers eux au portique dit de Salomon. Pierre, voyant cela, dit au peuple, « Hommes israélites, pourquoi vous étonnez-vous de cela? Pourquoi avez-vous les regards fixés sur nous comme si c'était par notre propre puissance ou par notre piété que nous avons fait marcher cet homme? Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu de nos pères, a glorifié son serviteur Jésus que vous avez livré et renié devant Pilate, qui était d'avis qu'on le relâche. Vous avez renié le saint et le juste, et vous avez demandé qu'on vous accorde la grâce d'un meurtrier. Vous avez fait mourir le prince de la vie, que Dieu a ressuscité des morts. Nous en sommes témoins. C'est par la foi en son nom que son nom a raffermi celui que vous voyez et connaissez. C'est la foi en lui qui a donné à cet homme cette entière guérison en présence de vous tous. Amen. Nous connaissons bien Pierre et Jean, qui étaient des disciples de Jésus. Ils ont fait partie des 120 qui étaient rassemblés dans la chambre haute le jour de la Pentecôte et ils ont été baptisés du Saint-Esprit. Il faut savoir que Jésus avait donné l'ordre de rester dans la ville jusqu'à ce que les disciples soient remplis ou revêtus de la puissance d'en haut. La Bible nous dit que Jésus est apparu à plus de 500 personnes pour annoncer ce message. Or, nous savons que dans la chambre haute, ils étaient environ 120. Donc, il y a une grande déperdition entre le moment où Jésus a annoncé les choses. Il y a toujours beaucoup de monde au départ, mais il y a peu de gens qui persévèrent. Et c'est seulement ces 120-là qui ont persévéré pendant 10 jours de prière, donc entre le moment où Jésus est ressuscité et la Pentecôte, ils ont prié pendant 10 jours et le Saint-Esprit est venu sur eux et ils se sont mis à parler en d'autres langues. À partir de là, leur vie a été transformée. Avant le jour de la Pentecôte, les disciples étaient dans la crainte. Ils avaient peur des Juifs, ils se cachaient. Mais maintenant qu'ils sont remplis du Saint-Esprit, ils n'ont pas peur de témoigner et de parler du Seigneur. La crainte a disparu. Et ce jour-là, la Bible dit que Pierre a prêché la parole de Dieu devant une foule, le jour de la Pentecôte, qui venait de tout horizon, de tout lieu. Et 3000 personnes se sont données au Seigneur et se sont fait ensuite baptiser par immersion. Donc on voit qu'il y a eu vraiment une transformation, une bénédiction suite au baptême du Saint-Esprit le jour de la Pentecôte. Et là, nous arrivons au chapitre 3, donc juste après le jour de la Pentecôte qui est au chapitre 2. Et nous allons voir maintenant les conséquences. On a pris l'exemple ici de Pierre et Jean. Les conséquences de ce baptême du Saint-Esprit dans la vie de Pierre et Jean. La première conséquence, et on va en fait en tirer des leçons pour nous aujourd'hui, puisque la parole de Dieu a été écrite pour nous. La première conséquence que je vois, c'est l'unité qui est créée dans le verset 1. C'est le mot « ensemble ». Pierre et Jean montaient ensemble. L'unité. Le Saint-Esprit crée l'unité. Parce que les disciples n'ont pas toujours été ensemble. Ils n'ont pas toujours été unis. Peut-être qu'ils étaient des fois ensemble, mais ils n'étaient pas dans le même esprit. Souvent, ils se comparaient les uns aux autres. Et Pierre était, lui, orgueilleux. Il se mettait toujours en avant. Et il se considérait au-dessus des autres. Il était présomptueux. Un jour que Jésus annonçait qu'il allait les quitter, qu'il allait partir et que tous les disciples allaient l'abandonner, dans Matthieu chapitre 26, verset 33, Pierre prend la parole et lui dit « Mais même si tu étais pour tous une occasion de chute, tu ne le seras jamais pour moi. » Voilà, ça c'est Pierre. Il est présomptueux, il est orgueilleux, il se met en avant, il considère les autres comme faillibles. Oui, peut-être tous vont t'abandonner, mais jamais moi je ne t'abandonnerai. Pourtant, c'est le seul dont il est dit dans la Bible qu'il a renié le Seigneur. Jacques et Jean aussi étaient de ceux qui cherchaient toujours les places d'honneur parce qu'ils sont allés voir le Seigneur et ils ont dit « Mais quand tu viendras dans ton règne, permets que nous soyons assis l'un à ta droite, l'autre à ta gauche. » Ils voulaient les meilleures places. Ils voulaient être auprès du Seigneur dans des places d'honneur. Donc les disciples, ils étaient en train de se disputer, ils n'étaient pas d'accord, mais quand ils sont remplis du Saint-Esprit, alors ils ont une autre attitude, une attitude d'unité, et quand on est rempli du Saint-Esprit, notre regard change. Alors vous allez considérer les autres comme au-dessus de vous-même, ça c'est la parole de Dieu. Vous allez vivre dans l'unité. L'unité, c'est un fruit de l'Esprit. Dans 1 Corinthiens 1, 10, Paul dit « Je vous exhorte, frères, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, à tenir tous un même langage. » Voilà l'unité, nous la retrouvons dans les paroles. « Et ne point avoir de division parmi vous, mais à être parfaitement unis dans un même esprit et un même sentiment. » Cette unité n'est pas possible humainement, mais elle est créée par le Saint-Esprit. Et quand nous sommes remplis du Saint-Esprit, nous sommes unis les uns aux autres par le lien de l'Esprit. Pour être un même esprit, un même sentiment, les mêmes paroles, la même volonté, le même amour, tout cela, ça vient du Saint-Esprit. Par contre, si nous marchons selon la chair, ça va être les divisions et les disputes. Les chrétiens de Corinthe, eux, marchaient dans la chair. Et Paul écrit, si vous lisez le début de l'épître aux Corinthiens, il commence par parler des problèmes dans l'Église de division. Il dit... Parmi vous, certains se revendiquent de Paul, les uns disent qu'ils sont d'Apollos, d'autres disent qu'ils sont de Céphas, c'est-à-dire Pierre, d'autres disent qu'ils sont de Christ. En fait, il y avait des clans, des divisions, mais ça, c'est le fruit de la chair. Et encore aujourd'hui, le fruit de la chair, c'est toujours la division. Les clans, les séparations, c'est l'opposé de l'esprit. Les chrétiens charnels n'arrivent pas à s'unir les uns aux autres parce qu'ils sont opposés les uns aux autres, donc ils vont se critiquer, ils vont se juger, ils vont se condamner. Paul dit même qu'ils se mordent les uns les autres pour se détruire. Mais si vous êtes rempli du Saint-Esprit, c'est un autre regard, vous allez chercher l'unité, vous allez chercher la paix avec tous. Et vous aurez des paroles de paix, vous aurez des paroles de grâce. Pour être uni aux autres, il faut le vouloir et le secours du Saint-Esprit. Et il faut combattre l'ennemi parce que le diable, c'est celui qui divise. Et donc, nous voulons être unis les uns aux autres, eh bien, laissons l'esprit dominer dans nos vies. Parce que le diable, il sème de l'ivraie. C'est Jésus qui le présente ainsi. Il dit, pendant la nuit, il y a un semeur, il vient semer de l'ivraie dans le champ. Et cette ivraie va pousser et contaminer le bon grain. Eh bien, cette image du semeur qui vient la nuit, c'est le diable. Et cette ivraie, c'est la zizanie, c'est la discorde, c'est les mauvaises semences que l'ennemi sème dans l'œuvre de Dieu pour faire la division. Et quand on marche dans la chair, on suit ce chemin-là. Donc, on voit que Pierre et Jean, eux, étaient unis ensemble, conséquence de cet esprit qui est en eux, qui les rassemble, ils sont unis dans la foi, dans l'amour, et ils avancent ensemble. Deuxième conséquence que l'on voit dans ce texte, c'est la prière. C'est l'heure de la prière, ils vont au temple. Avant le baptême du Saint-Esprit, on voit que les disciples avaient du mal à prier. Un jour, Jésus a pris Pierre, Jacques et Jean pour prier avec lui. C'était à Gethsémané. Et ils n'ont pas pu même prier une heure avec lui. Ils se sont endormis. Ils avaient du mal à prier. Et le diable fait tout pour nous décourager de prier, pour nous fatiguer, pour nous empêcher. Au contraire, l'Esprit nous pousse à la prière. Romains 8, 26, il vient à notre aide. De même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse. Et c'est là qu'on voit que quand on est rempli du Saint-Esprit, on a une force qui va nous aider. Car nous ne savons pas ce qui convient de demander dans nos prières, mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Et celui qui sonde les cœurs et connaît la pensée de l'Esprit, c'est parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Voilà ici une indication que l'Esprit, quand nous le laissons agir en nous, il nous pousse à la prière, il nous aide dans nos faiblesses. Et justement, comme nous sommes faibles, si nous sommes charnels et poussés par la chair, eh bien nous ne prierons pas. Ou nous commencerons à prier, mais nous serons vite découragés. Pour ça, nous devons demander au Saint-Esprit de nous remplir, de nous revêtir, pour venir en aide à notre faiblesse et nous aider dans la prière. Pierre et Jean se sont fixés des priorités dans leur vie. C'est lors de la prière, eh bien, ils vont prier avec les autres. Ils auraient pu faire autre chose, on a toujours des tas d'occupations, mais Satan cherche toujours à remplir nos agendas de futilité. Donc Pierre et Jean s'étaient fixés un rendez-vous et ils se sont dit, ce jour-là, à cette heure-là, nous allons prier. Mais si vous ne prenez pas cette habitude de fixer un rendez-vous avec Dieu, si vous n'avez aucun rendez-vous d'établi, eh bien finalement, vous ne trouverez jamais le temps de prier. Il faut fixer les choses. C'est pourquoi nous devons, dans notre agenda, avoir des rendez-vous réservés pour chercher Dieu, prier, être dans sa présence. Mais quand vous êtes rempli du Saint-Esprit, vous êtes poussé à la prière, et c'est quelque chose qui est dans votre cœur. Vous avez compris la priorité, c'est un temps non négociable, c'est un temps tellement vital. Si on vous enlève la prière, c'est comme si on vous enlève la respiration. La prière, c'est vraiment important. Mais si vous laissez la chair vous conduire, alors vous trouverez des excuses, je n'ai pas le temps, ou alors j'ai ceci à faire, je prierai après, mais après on n'a pas le temps, ou alors il fait trop froid, il pleut, et on se laisse bloquer. Donc les occasions de distraction sont infinies. Si vous n'êtes pas ferme, vous aurez toujours d'autres choses à faire. Donc soyez résolus. Et quand vous êtes rempli du Saint-Esprit, alors vous avez une telle conviction que c'est vous-même qui allez chercher du temps pour prier. On n'a pas besoin qu'on vous dise « Allez, il faut que tu ailles prier », mais vous le ressentez dans votre cœur et vous prenez les dispositions pour prier tous les jours. Donc si vous n'avez pas ce zèle pour la prière, c'est déjà un indice que vous vous êtes refroidi spirituellement, que la vie de l'esprit a diminué et que c'est la vie de la chair qui prend le dessus. Paul l'explique aux Romains, chapitre 8, verset 5. Ceux, en effet, qui vivent selon la chair, donc ce sont ceux qui ont laissé leur passion, leur désir dominer dans leur vie, ils s'affectionnent aux choses de la chair. Voilà le problème, c'est que maintenant, ils sont enclenchés dans un processus où ce n'est plus la volonté de Dieu qui domine, mais c'est leur propre désir. Et donc, ils sont dans ce cercle-là. Tandis que ceux qui vivent selon l'esprit, c'est ce que nous désirons, laisser l'Esprit régner dans nos cœurs, être rempli du Saint-Esprit, alors forcément, la conséquence, vous allez vous affectionner aux choses de l'Esprit. Et ça va être différent. Ça va être le désir de prier, le désir de chercher Dieu, le désir de vivre des choses pour Dieu. Mais si c'est la chair qui domine, eh bien, la prière sera négligée. Vous aurez d'autres préoccupations. Vous serez plus dans les préoccupations terrestres et matérielles. Mais en tout cas, Dieu passera en second plan. Mais à ce moment-là, vous êtes dans l'autre cycle. Ceux qui s'affectionnent aux choses de la chair, ils vivent selon les choses de la chair. C'est pour ça que cette voie-là aboutit à la mort spirituelle et à la séparation d'avec Dieu. Donc il nous faut, nous, affectionner aux choses de l'Esprit et rechercher le Saint-Esprit dans notre vie. Ça, c'était la deuxième conséquence. Donc on voit, il y a la prière qui est importante dans leur vie. Ils ont réussi à remporter des victoires dans leur vie de prière. Une troisième conséquence que je vois, c'est maintenant le zèle pour la maison de Dieu. Il est dit qu'ils allaient ensemble, mais au temple, c'est-à-dire la maison de Dieu. Pierre et Jean vont dans la maison de Dieu, l'église, le temple, le rassemblement. Et quand on est rempli du Saint-Esprit, on a compris l'importance du rassemblement. Psaume 133, versets 1 à 3, David décrit la bénédiction qu'il y a dans la maison de Dieu. Cantique des degrés, voici qu'il est agréable et qu'il est doux pour des frères, et on peut dire pour des frères et des sœurs, de demeurer ensemble. C'est comme l'huile précieuse qui est répandue sur la tête descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de ses vêtements. C'est comme la rosée de l'Hermon qui descend de la montagne de Sion, car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Voilà ce que c'est le rassemblement du peuple de Dieu. C'est là que l'Éternel envoie la bénédiction. Voilà pourquoi les réunions des frères et sœurs, le peuple de Dieu, le temple ou l'église, c'est des temps importants, c'est des temps de rencontre avec Dieu et des temps de visitation. Il y a la bénédiction, on est vivifié, on est renouvelé dans la présence de Dieu. Mais si c'est la chair qui domine, alors vous éviterez les rassemblements, vous éviterez les autres frères et sœurs et votre vision sera limitée. Et vous verrez juste des réunions, mais vous ne verrez pas la bénédiction, vous ne verrez pas la grâce. Vous n'aurez pas ce zèle pour la maison de Dieu. Et si ce zèle n'est pas là, si vous n'aimez pas les rassemblements, si vous n'aimez pas les frères et sœurs, si vous ne cherchez pas la présence des frères et sœurs, c'est déjà un indice que le Saint-Esprit a diminué dans votre vie et qu'il n'a plus la première place, que vous n'êtes plus rempli du Saint-Esprit. Lorsque Jésus est allé dans le temple, il a vu qu'il y avait des commerces, des changeurs de monnaie et du trafic. La Bible dit qu'il a renversé les tables et il a chassé les vendeurs du temple. Et les disciples se sont souvenus de cette parole qui dit « Le zèle de ta maison me dévore ». Voilà quelqu'un qui est rempli du Saint-Esprit. Quand vous êtes rempli du Saint-Esprit, c'est le zèle pour la maison de Dieu qui va dominer. C'est un zèle pour l'œuvre de Dieu. Si vous êtes rempli du Saint-Esprit, vous aurez ce zèle et vous chercherez par tous les moyens à rencontrer des frères et sœurs, à vivre des temps dans la communion, à aller au temple à l'heure de la prière, à aller chercher la face de Dieu, parce que c'est quelque chose qui vous porte. Alors vous pourrez apporter votre adoration. Vous venez dans l'église pour apporter votre louange, votre reconnaissance, rencontrer les frères et sœurs, être édifiés. Mais vous venez d'abord pour donner à Dieu. Non pas pour recevoir d'abord, mais pour donner. Ça, c'est le principe spirituel. Quand on a compris ce principe, dans 1 Pierre 4,10, voyez ce que Dieu attend de nous. Comme des bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. Ça commence par donner, par servir, par faire, par se mettre à l'œuvre au service de Dieu. Si quelqu'un parle, que ce soit comme annonçant des oracles de Dieu, si quelqu'un remplit un ministère, qu'il le remplisse selon la force que Dieu lui communique, afin qu'en toute chose, Dieu soit glorifié par Jésus-Christ, à qui appartiennent la gloire, la puissance au siècle des siècles. Amen. Et quand vous venez pour donner, vous venez pour donner votre adoration, pour partager, pour exhorter quelqu'un, pour faire du bien autour de vous, eh bien vous recevez grâce sur grâce, bénédiction sur bénédiction. L'expression « les uns les autres » d'ailleurs revient dans la Bible plus de 30 fois. Par exemple, « aimez-vous ardemment les uns les autres, honorez-vous les uns les autres, exhortez-vous les uns les autres, instruisez-vous les uns les autres. » Tout cela nous montre qu'on vient pour donner de l'amour, de l'honneur, exhortation, instruction, encouragez-vous les uns les autres. Et je passe, il y en a plus de 30 qui nous montrent que quand on vient dans l'Église, bien c'est pour donner autour de nous, grâce sur grâce. C'est comme ça qu'ils ont compris. Donc, ils vont dans le temple à l'heure de la prière. Quatrième conséquence que je vois ici dans ce texte, c'est maintenant, quand ils sont remplis du Saint-Esprit, c'est cet amour pour les perdus. Parce que Pierre et Jean ont de la compassion pour un boiteux qui est là à l'entrée de la porte du temple. Ils ne le connaissent pas, mais quand vous êtes remplis du Saint-Esprit, Dieu va mettre de la compassion dans votre cœur pour des personnes que vous ne connaissez pas. Vous serez touché par une personne qui ne connaît pas le Seigneur. Vous aurez envie de lui faire du bien, de lui parler du Seigneur, de lui transmettre l'amour de Dieu, parce que vous êtes rempli du Saint-Esprit. Jésus, lui, était rempli du Saint-Esprit, il était rempli d'amour pour les perdus. Un jour, un jeune homme riche vient le voir et lui dit, « Mais que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Alors Jésus lui dit, « Tu connais les commandements ?» Alors il lui rappelle les commandements, et le jeune homme dit, « Bah, moi, j'ai observé toutes ces choses, je suis les commandements. » Et la Bible dit, Jésus l'ayant regardé, l'aima. Et ça commence par ce regard d'amour. Ce regard d'amour, il vient du fait qu'on est rempli du Saint-Esprit. Et cet amour-là, c'est le premier fruit du fruit de l'esprit. Et après, Jésus va l'enseigner et va lui dire, ben, va, vends tout ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres et puis viens et suis-moi. Et puis là, on voit que le jeune homme riche n'a pas voulu aller jusqu'au bout et tout triste, il est parti. Mais l'amour de Jésus, c'est cet amour qui nous pousse à parler de la part du Seigneur aux gens qui ne le connaissent pas. L'amour, c'est le fruit de l'esprit. Si on regarde dans le fruit de l'esprit, c'est l'amour. D'abord, l'amour, la paix, la joie, la patience. Mais ça commence par l'amour. Et plus vous serez en communion avec Dieu et avec le Saint-Esprit, plus cet amour-là sera dans votre cœur pour les perdus. Pierre et Jean auraient pu passer par-dessus, ignorer cet homme, rentrer dans le temple, poursuivre le chemin. Mais le Saint-Esprit les a poussés à s'arrêter, regarder cet homme, être plein de compassion pour lui, lui donner des paroles, prier pour lui. Voilà, ça c'est la conséquence quand on est rempli du Saint-Esprit. Le cœur de Pierre et Jean était pur. Lorsque votre cœur est pur, ben Dieu y dépose ses désirs. Il vous mettra dans le cœur, par exemple, de prier pour une personne, d'aimer une personne, de faire du bien à une personne, de soutenir une personne. David, par exemple, fait cette prière au psaume 51. « Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. » Alors ce cœur pur, nous ne l'avons pas naturellement. Nous devons prier pour que Dieu nous donne ce cœur pur. Et quand vous avez un cœur pur, le Seigneur y dépose ses sentiments et vous pouvez aimer autour de vous et faire la volonté de Dieu. Mais si votre cœur est dur, s'il est fermé aux choses de Dieu, alors vous n'aurez pas cette compassion, vous n'aurez pas l'amour de Dieu et vous ne vous arrêterez pas pour un perdu, vous ne lui parlerez pas du Seigneur, vous ne viendrez pas en aide à votre prochain. C'est pour ça que nous avons besoin d'être transformés dans nos cœurs par l'action du Saint-Esprit. Une cinquième conséquence, quand vous êtes rempli du Saint-Esprit, bien, c'est que vous avez des paroles inspirées. Ils disent au verset 6, « Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. » Peut-être que même Pierre a été surpris par la parole qu'il donnait lui-même, mais c'est l'Esprit qui le pousse à donner cette parole de guérison, cette parole de délivrance à cet homme. Et quand vous êtes rempli du Saint-Esprit, bien, ce sont des paroles de Dieu qui vont venir sur votre bouche et que vous allez dire de la part du Seigneur. Vous voyez, ils disent « Au nom de Jésus-Christ, lève-toi et marche. » Ce n'est pas Pierre qui le fait en son nom, mais c'est « Au nom de Jésus ». Ces paroles-là, en fait, elles viennent de Dieu. Alors, vous pourrez toujours donner des paroles avec votre sagesse, avec votre intelligence, mais il y a aussi les paroles que l'Esprit va vous donner, c'est les paroles inspirées. Donc, soyez à l'écoute du Saint-Esprit, et quand vous êtes rempli du Saint-Esprit, priez le Seigneur pour qu'il vous donne les bonnes paroles au bon moment. Priez dans votre cœur et c'est lui qui donnera les paroles inspirées. Maintenant, si vous n'entretenez pas cette relation avec le Saint-Esprit, alors c'est très probable que vous n'aurez pas les paroles inspirées parce que ces paroles inspirées, elles viennent d'une communion avec le Saint-Esprit. Et même si vous ne développez pas cette communion, qu'est-ce qui va se passer? C'est que le feu du Saint-Esprit va même s'éteindre. C'est pour ça, dans 1 Thessaloniciens 5, 19, il y a un avertissement qui est vrai pour chacun de nous, il dit « N'éteignez pas l'esprit par notre tiédeur, par notre manque de ferveur, notre négligence. » On peut s'attiédir et finir par éteindre le Saint-Esprit dans notre vie. Alors là, c'est sûr que ce ne sont pas des paroles inspirées, mais souvent des paroles dures, des paroles de critique, des paroles de jugement, des paroles mauvaises sur les uns, sur les autres. Parce que c'est un indice déjà que la personne a éteint l'esprit et qu'elle n'est plus en communion avec le Saint-Esprit. Attention, Jésus nous prévient, les paroles vaines se retourneront un jour contre nous. Matthieu 12, 36, c'est Jésus qui parle, je vous le dis, au jour du jugement. Les hommes rendront compte de toute parole vaine qu'ils auront proférée. Ces paroles à tort et à travers, ces paroles mauvaises, eh bien, nous devons les enlever de notre vie, de notre cœur. Elles ne sont pas la gloire de Dieu. Car par tes paroles, tu seras justifié et par tes paroles, tu seras condamné. Donc, tous ceux qui parlent à tort et à travers, qui ne sont pas remplis du Saint-Esprit, mais qui parlent de leur propre cœur, Ils sont en train de semer des mauvaises semences. Mais chaque semence produit un jour un fruit. Celui qui sème le vent récolte la tempête. Et ces paroles-là produisent bien des malédictions. Et finalement, il y aura des comptes à rendre au jour du jugement. Mais si vous donnez de bonnes paroles, si vous êtes rempli du Saint-Esprit, ce sont des paroles inspirées, alors vous récolterez des bénédictions. Priez le Seigneur pour être rempli du Saint-Esprit, pour que ces paroles qui sortent de votre bouche soient en adéquation avec la parole de Dieu. Ne laissez pas la chair vous conduire dans vos paroles. Ce sera des paroles qui sèmeront la mort, des paroles de destruction. Un jour, il y a un homme qui a fait cette expérience. C'est dans le livre des rois, deuxième livre des rois au chapitre 7. Au temps d'Élisée, Élisée qui était un prophète, il a annoncé qu'il n'y aurait plus de famine dans le pays à partir de demain, du lendemain. Ça faisait tellement de temps qu'il y avait cette famine que l'officier sur la main duquel s'appuyait le roi n'a pas cru que c'était une parole inspirée. Et il a dit, mais l'Éternel ferait-il des fenêtres, quand l'Éternel ferait des fenêtres au ciel, cela n'arriverait pas. Il a jugé la parole, mais par ses propres paroles, il s'est condamné lui-même, puisque le prophète lui a dit, tu le verras de tes yeux, mais tu n'en mangeras pas. Et effectivement, le lendemain, alors qu'il y a eu ce miracle que les Syriens ont fui et que le camp a été libéré et que la ville a été libérée, eh bien, l'officier sur la main duquel s'appuyait le roi qui était à la porte a été écrasé par la foule qui est sortie en masse pour chercher de la nourriture. Mais il avait prononcé lui-même ses paroles de malédiction en disant « cela n'arrivera pas ». Vous voyez, ça, c'est l'exemple typique des paroles inspirées par la chair qui produisent la mort. Chaque parole inspirée par la chair va être une semence de mort. Eh bien, il a récolté le fruit de ses propres paroles et la bénédiction qui était pour tous ne s'est pas accomplie dans sa vie. Il a été comme privé de la bénédiction de Dieu. Au contraire, si vous avez les paroles de l'Esprit comme Élisée qui inspirait, disait les choses de Dieu, eh bien lui, il a été béni et il a pu profiter des bénédictions. Sixième conséquence du baptême dans le Saint-Esprit, c'est la puissance du Saint-Esprit dans le miraculeux. Puisque la Bible dit, au même instant, c'est au verset 7, le prenant par la main, il le fit lever, au même instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. Et on voit le miracle qui se produit. Donc, Pierre et Jean vivent dans le miraculeux de Dieu. Ils ont la foi, ils sont remplis du Saint-Esprit, ils ont la foi que Dieu peut tout faire et ils s'attendent à de grandes choses. Ça aussi, c'est une conséquence du baptême dans le Saint-Esprit, c'est qu'on croit vraiment que Dieu peut tout faire. Et on s'attend à la main de Dieu au milieu de nous. Alors, il s'appuie sur la promesse de Jésus, tout simplement. Marc 16, 17. « Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. » Donc, il s'appuie sur cette promesse qui est là, mais c'est une promesse de Jésus, et ils s'attendent à la guérison. Et quand vous êtes rempli du Saint-Esprit, vous vous attendez au miracle de Dieu, à l'intervention surnaturelle du Seigneur, à une guérison, à une délivrance, à une intervention, quelle qu'elle soit, parce que c'est la volonté de Dieu. Alors vous croyez que Dieu peut encore changer toutes les choses. Si vous raisonnez avec à vue humaine ou par la chair, vous allez dire « c'est pas possible, on n'y arrivera pas ». Mais le Saint-Esprit en vous, quand vous êtes rempli, vous dit « c'est possible parce que Dieu est tout-puissant ». Et c'est un autre discours, c'est une autre vision. Éphésiens 3, 20 dit ceci « Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, à lui soit la gloire, dans l'Église et en Jésus-Christ, dans toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. » La puissance qui agit en nous. Et ça, c'est par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est une puissance. Jésus l'a dit, vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous, bien, c'est une puissance pour le miracle, pour l'intervention surnaturelle de Dieu. Et quand vous êtes rempli du Saint-Esprit, alors vous serez conduit à prier dans des situations sans issue. Lorsque, par exemple, on a interdit aux disciples de prêcher la parole de Dieu, c'est dans le chapitre suivant, Actes chapitre 4, on leur a dit « Maintenant, vous ne parlez plus du nom de Jésus ». Eh bien, ils ne se sont pas laissés arrêter par ces paroles, mais ils ont donné d'autres paroles. Et ces paroles-là, c'est par le Saint-Esprit. Et ils ont prié « Vois leur menace ». Mais ils ont dit « Étends ta main pour qu'il se fasse des miracles, des prodiges par le nom de ton saint serviteur Jésus ». Il y a d'autres paroles. Et ces paroles-là, c'est inspiré par l'Esprit. Et ça va contrecarrer les paroles de découragement, les paroles qui veulent vous arrêter, les paroles négatives. Eh bien, vous, si vous êtes rempli du Saint-Esprit, vous allez mettre en avant les paroles de l'Esprit, des paroles de foi, les paroles de vie. Et finalement, la Bible dit qu'ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à glorifier Dieu. Il y a eu une visitation, le lieu s'est mis à trembler, une grande bénédiction, parce qu'ils étaient dans la présence de Dieu. On voit aussi un autre cas impossible, lorsque Dorcas était une chrétienne qui est décédée, et lorsqu'elle est morte, on a fait venir Pierre pour prier pour elle. Et dans Actes 9, 40, il dit ceci, « Pierre fit sortir tout le monde. » Donc elle était là dans la chambre, elle était sur un lit, mais elle était morte, et il se mit à genoux et pria. Puis se tournant vers le corps, il dit, « Tabitha, lève-toi, Tabitha, Dorcas, c'est le même nom. » Elle ouvrit les yeux et ayant vu Pierre, elle s'assit. Pourquoi ? Parce que Pierre était rempli du Saint-Esprit, qu'il a eu cette audace de la prière, de la prière de la résurrection. Ce n'est pas une prière que l'on fait comme cela. Il faut être rempli du Saint-Esprit. Et c'est ça qui a permis cette audace et ce miracle. Alors l'ennemi voudra toujours vous décourager. Il vous dira toujours « arrête de prier ». Ça ne sert à rien de persévérer, il n'y a plus de miracle aujourd'hui, ce n'est plus la peine de venir à l'église, ça ne sert à rien, si Dieu voulait, tu serais guéri, etc. Mais rappelons-nous que Dieu est souverain et qu'il agit en son temps. Et si vous êtes rempli du Saint-Esprit, vous aurez la force de résister à l'adversaire. Et c'est vous qui direz les paroles, comme Jésus a dit, « Arrière de moi, Satan ». Ce n'est pas lui qui va dominer sur votre vie, mais c'est quand vous êtes rempli du Saint-Esprit, c'est vous qui allait le mettre à distance. C'est vous qui allez le faire reculer grâce à la puissance du Saint-Esprit. Enfin, je vois une septième conséquence, c'est l'humilité de Pierre et Jean, qui ne s'attribue pas la gloire au milieu du verset 12, par exemple. Pourquoi avez-vous les regards fixés sur nous, comme si c'était par notre propre puissance ou notre piété que nous avions fait marcher cet homme ? Donc, il montre tout de suite que ce n'est pas par leur puissance à eux. Et si vous êtes remplis du Saint-Esprit, vous n'allez pas vous attribuer la gloire, mais vous allez toujours glorifier le Seigneur Jésus. Et Paul donne même ce conseil aux chrétiens de Rome, dans Romains 12, 16. « Ayez les mêmes sentiments les uns envers les autres. N'aspirez pas à ce qui est élevé, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble. Ne soyez point sages à vos propres yeux. » Ça, c'est important, c'est l'humilité, c'est le chemin par lequel nous devons marcher. Nous ne devons pas suivre les principes du monde. D'ailleurs, Jésus était doux et humble de cœur, c'est notre modèle. Donc, soyons humbles. Le Seigneur était humble. Pierre et Jean auraient pu tomber dans l'orgueil avec un tel miracle et se dire, bah, voyez, c'est par notre puissance, c'est par notre piété. Ils auraient pu attirer les gens à eux. Et si l'orgueil avait dominé dans leur vie, c'est bien un signe qu'ils marchaient dans la chair. Ils auraient marché non pas selon l'esprit qui pousse à l'humilité, mais selon la chair qui pousse à l'orgueil. Et quand vous n'êtes pas rempli du Saint-Esprit, eh bien, c'est l'orgueil qui va dominer dans votre vie. La caractéristique d'une personne remplie du Saint-Esprit, vous le verrez toujours, c'est la douceur et l'humilité. Ces deux caractéristiques vont ensemble. Pierre et Jean élèvent le nom de Jésus. C'est au verset 16. C'est par la foi en son nom, c'est-à-dire au nom de Jésus, que son nom a raffermi celui que vous voyez et connaissez. C'est la foi en lui qui a donné à cet homme une entière guérison en présence de vous tous. Donc tout simplement, ce que nous devons faire et ce que nous faisons quand nous sommes remplis du Saint-Esprit, eh bien, c'est d'élever le nom de Jésus. Alors, il ne tombe pas dans le piège d'attacher les gens à eux, mais ils veulent les attacher au Seigneur Jésus. Ça, c'est notre rôle. C'est notre mission. Mettre les gens en contact avec Jésus. Ils ne se mettent pas en avant, mais ils vont mettre Jésus en avant. Comme Paul dit dans un verset, il dit « Christ est ma vie ». Et il dit pour lui, c'est Christ qui règne sur sa vie. Il y a une puissance dans le nom de Jésus. Pierre et Jean ont compris qui est Jésus. Et si nous avons compris qui est Jésus, eh bien nous pouvons proclamer son nom. Jésus, c'est le Sauveur. Jésus, c'est le Roi des Rois, c'est le Seigneur des Seigneurs. Son nom est tout puissant. Paul dit dans Philippiens 2,9, c'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé. Il s'agit de Jésus. Voilà sa position. Il lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et même sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la droite de Dieu le Père. Quand vous êtes rempli du Saint-Esprit, vous allez élever le nom de Jésus, même dans vos prières, même dans les combats. Et la victoire ne vient pas d'un homme ou d'une dénomination, on n'élève pas des noms humains, mais Jésus est Dieu. Et c'est la foi en son nom qui permet le miracle. Donc si vous êtes rempli du Saint-Esprit, vous allez vivre dans la foi. Vous allez non pas regarder aux choses visibles, mais aux choses invisibles. Vous ne vous laisserez pas arrêter par les difficultés, mais vous resterez ferme sur les promesses de Dieu. On va prier quelques instants, parce qu'aujourd'hui encore, nous avons besoin d'être remplis du Saint-Esprit. Je vais inviter le groupe à venir, parce que j'aimerais qu'on termine par un temps de prière et de recherche du Saint-Esprit. Les disciples étaient constamment renouvelés dans le Saint-Esprit. J'ai dit que ça a commencé en Actes chapitre 2. Oui, ils ont été baptisés du Saint-Esprit, ils se sont mis à parler en langue. Mais si vous lisez Actes 4, il dit qu'ils furent à nouveau remplis du Saint-Esprit. C'était les mêmes qui étaient là en Actes 2. Mais cette expérience s'est renouvelée. Et c'est une expérience, en fait, qu'il faut entretenir. Ce n'est pas juste l'histoire d'une fois où Dieu vous a visité, mais c'est un entretien constant. Alors, si vous voulez être rempli du Saint-Esprit, ouvrez votre cœur à Dieu. Et alors qu'on est là dans la prière, on va demander au Seigneur de vous visiter, de vous remplir, de vous renouveler. Demandez au Seigneur de vous visiter, parce qu'il y a une grande différence entre l'eau vive et l'eau stagnante. L'eau vive, elle est constamment renouvelée. Et le Saint-Esprit, c'est comme de l'eau vive. L'eau vive, elle est constamment renouvelée. Celui qui croit en moi, dit Jésus, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Je vais prier un instant. Merci encore pour ta présence, merci pour ta grâce. Dans ces instants, nous tournons nos cœurs vers toi et nous te prions, Seigneur, d'étendre ta main pour que tu visites encore, que tu renouvelles dans le Saint-Esprit, que tu baptises du Saint-Esprit, mais que tu renouvelles aussi dans la vision, dans la foi et que tu accordes, Seigneur, cette bénédiction qui vient d'en haut. Oui, dans le nom de Jésus, nous te rendons gloire. Amen. Que le Seigneur vous bénisse.